Géopolitique, Marie-France Chatin.
Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette édition consacrée à l'Inde. Le tout dernier rapport prospectif des services de renseignement américains qui jette de la lumière sur le monde en 2035 et dont nous vous parlions dans l'édition d'hier souligne que l'Inde sera l'économie mondiale qui croîtra le plus vite dans les 5 ans à venir, en même temps que, contrairement à la Chine, le pays profitera de 10 millions d'actifs nouveaux par an au cours des décennies à venir. Regard sur ce pays qui a sans doute le plus grand potentiel de stimulation de la croissance mondiale en raison de sa taille et de la réussite de son secteur technologique, mais qui n'est pas exempte de déséquilibre. La route est ainsi loin d'être toute tracée. Entre autres priorités, une politique étrangère plus volontariste afin de contrer l'ingérence de la Chine dans ses intérêts. Nos invités par téléphone depuis New Delhi, Vaiju Naravan, écrivain et journaliste, auteur de Transgression, paru dans la collection Romans du Seuil. Bonjour.
Bonjour.
En studio, Jean-Luc Racine, directeur de recherche au CNRS, bonjour.
Bonjour.
Et Olivier Dallage, journaliste à RFI, auteur de L'Inde, désir de puissance, qui vient de paraître chez Armand Collin, bonjour.
Bonjour.
Plus de 2 ans maintenant que Narendra Modi a accédé à la fonction de Premier ministre, c'était en mai 2014. Un récent article sur l'Inde paru dans le magazine anglophone The Economist pose la question de savoir si l'Inde doit être vue comme un pays ou plutôt un continent, et poussant plus loin la question si c'est aux États-Unis qu'elle peut être comparée ou plutôt à l'Union européenne en raison de la diversité des langues, du niveau de développement entre ces différents États. Et pour ce qui est de sa diplomatie, elle est réputée mal coordonnée. Parlant de la politique étrangère de l'Inde, l'auteur de l'article évoque l'incapacité notoire des éléphants à danser. C'est sans doute un peu sévère. Narendra Modi aborde la seconde moitié de son mandat. Qu'est-ce que l'on peut dire, Vaiju Naravan, du chemin déjà parcouru ?
Oh, c'est du chemin un peu intéressant parce que Modi a été quand même très proactif dans sa politique étrangère. Dans les premières 2 années, il est allé partout dans le monde en essayant de construire des ponts, mais son accent était sur la relation économique que l'Inde peut avoir avec différents pays du monde. Il a parlé avec les Australiens, il est allé aux États-Unis, l'Angleterre, il est venu en France, et partout son accent était sur son projet favori, qui est celui de Make in India. Essayer de inviter l'investissement étranger pour venir investir en Inde, car l'Inde a besoin de créer quelque chose comme 100 millions d'emplois. C'est ça que M. Modi s'est fixé comme cible pour lui-même, comme target à achever. Et avec la situation en Inde, c'est qu'il y a 60% de gens qui habitent ou qui dépendent directement ou indirectement de l'agriculture, mais ce pays produit que 25 ou peut-être même moins, 22% de son PIB de l'industrie. Il y a un sévère problème d'emploi, et pour Modi, il est clair que s'il doit gagner les élections prochaines, et même les élections qui se tiennent dans quelques jours, dans quelques États les plus importants de l'Inde, il faut créer des emplois. Il y a une espèce de pression sur lui. Alors, une politique étrangère beaucoup plus axée sur l'économie, le développement économique, la coopération économique et l'investissement bilatéral que la politique étrangère proprement dit, c'est-à-dire est-ce que l'Inde va devenir un grand joueur ou un grand acteur sur l'échiquier international.
On développera bien sûr donc une politique étrangère, Jean-Luc Racine, très axée sur l'économie. La croissance de l'Inde donne envie à beaucoup de pays européens, et pas seulement européens. Une croissance évaluée, alors un petit peu en baisse par rapport aux prévisions de l'année dernière, mais tout de même 7,1%. Et il est prévu que l'Inde, en 2020, se hisse à la 3e place des puissances économiques mondiales. Somme toute, très loin des États-Unis et de la Chine.
Oui, très loin des États-Unis et de la Chine, mais le parcours est remarquable. Pendant très longtemps, quels qu'aient été d'ailleurs les progrès de son taux de croissance, l'Inde a été 10e, 9e. Elle est aujourd'hui la 7e puissance économique mondiale. Et elle va bientôt dépasser la France, puisqu'elle est là, elle nous mord les talons, si j'ose dire, d'ici 5 ans à peu près, ce sera fait. Mais en même temps, c'est un pays, et ça a été dit, hein, qui fait face quand même à de sérieux problèmes. Vous l'avez évoqué, la population est jeune, le pays ne manque pas de main-d'œuvre, contrairement à ce que pourrait être la Chine qui s'est résolue finalement à abandonner l'enfant unique. Mais la question, c'est de fournir des emplois. D'où, évidemment, cette focale majeure de la politique étrangère qui a été soulignée par Vijayaraghavan, à savoir, il y a bien sûr des questions de sécurité, il y a les questions qui sont liées à la présence de la diaspora, il y a le jeu géopolitique dont on parlera sans doute, mais il est vrai que le mantra, si j'ose dire, central à l'échelle globale de Narendra Modi, c'est ce slogan de venez fabriquer chez nous, puisque l'Inde se trouve dans cette posture assez étonnante sur le plan à la fois des technologies de l'information et de l'espace. On vient de le voir encore très récemment avec un envoi de fusées portant une centaine de nanosatellites, mais ça n'empêche que sur le plan de la base industrielle du pays, elle est en retard. Et c'est évidemment cette base industrielle absolument centrale pour résoudre la question des emplois.
Alors, explication sur ce retard de la base industrielle qu'évoque à l'instant Jean-Luc Racine, Olivier Dallage ou...
Il y a déjà 70 ans de modèle industriel dont ils essayent de sortir, hein, qui était fondé sur la planification, un rôle important de l'État. Il y avait des acteurs privés, naturellement, mais on ne change pas du jour au lendemain simplement parce qu'il y a une volonté. Il y a un problème aussi majeur auquel les Indiens doivent s'atteler très rapidement, et s'ils y réussissent, ça changera tout. C'est le contrôle de qualité et l'homogénéité. Parce que, prenons par exemple l'industrie militaire. Il y a des fabricants d'armement indiens depuis longtemps, et pourtant l'armée indienne n'a pas confiance dans ces fabricants. C'est pour ça qu'ils se sont tournés vers le Rafale, et cette semaine seulement...
Le Rafale français.
Le Rafale français, mais cette semaine seulement, le fleuron de la production indienne, qui est un avion plus léger, le Tejas, a été rejeté par la marine nationale parce que il ne correspondait pas à ses spécifications. Et autant il y a une excellence dans la production indienne, autant cette excellence n'est pas homogène. Et ça, pour que le décollage se fasse véritablement et avec toute l'ampleur dont l'Inde a besoin, il faut que ce contrôle de qualité soit maintenant quelque chose qui soit prioritaire.
Alors, problème de formation, problème d'éducation à un très haut niveau, les étudiants indiens sont remarquablement formés, et à un moindre niveau, cette éducation, cette formation fait d'une certaine manière défaut. C'est l'un des problèmes, Vijayaraghavan.
Oui, je dirais qu'il y a une espèce de crise dans l'éducation elle-même en Inde, comme dans la santé publique ou dans le secteur de santé, dans l'éducation. On a un secteur à deux vitesses. Vous avez d'excellentes universités, d'excellentes écoles, mais souvent ça se trouve dans le secteur privé. Il y a une telle poussée de la population que comme l'Inde ajoute 18 millions de nouvelles personnes à sa population tous les ans, et je dis bien 18 millions tous les ans, c'est impossible que les infrastructures, même quand vous les construisez extrêmement rapidement, sont suffisamment là pour arriver à satisfaire les besoins. Alors, vous avez des étudiants qui ont 9,9 sur 10, et il y a une course pour les meilleurs collèges, les meilleures universités, et évidemment par collège, je veux dire, pas les collèges lycéens, mais les collèges qui appartiennent à des grandes universités en Inde. Et vous avez énormément de choses qui se passent dans le secteur privé, mais dans le secteur public, les écoles sont souvent délabrées, la qualité d'éducation n'est pas à la hauteur, on est en train de fabriquer des gens diplômés, mais qui ne savent pas correctement ni lire ni écrire, donc il y a une vraie crise. Et le problème, c'est que pour avoir des travailleurs pour demain, il faut avoir des compétences dans l'informatique, il faut savoir correctement lire et écrire, il faut pouvoir arriver à franchir cette gap technologique et industrielle qui sépare l'Inde avec les autres pays développés que l'Inde essaye d'émuler.
Jean-Luc Racina, un commentaire sur ce que vient de dire Vaiju Naravan, et je souhaiterais qu'on aille plus loin. Vous évoquiez ce slogan entre guillemets de Narendra Modi, venez fabriquer chez nous. Pourquoi ne vient-on pas fabriquer en Inde aussi facilement qu'on l'a fait en Chine peut-être?
C'est une question techniquement assez complexe, mais pour la simplifier au maximum, il reste quand même chez la plupart des investisseurs mondiaux, et je pense plutôt aux grandes entreprises, même si on voit bien qu'il y a des entreprises de taille moyenne qui trouvent à prospérer en Inde dans des niches, en quelque sorte. Mais fondamentalement, on est face à un dilemme. D'un côté, il y a le marché indien potentiel, plus d'1,2 milliard de personnes, une classe moyenne, alors il y a toujours 1000 façons de définir la classe moyenne, mais qui... quel que soit le modèle qu'on retient, plusieurs centaines de millions de personnes. Donc ça, évidemment, c'est un facteur décisif. Mais face à cela, il y a le sentiment encore très partagé chez les investisseurs internationaux que ça reste quand même un peu difficile de faire du travail en Inde, que la libéralisation de l'économie lancée au début des années 1990 a certes ouvert les portes d'un pays qui était protectionniste, mais où la bureaucratie reste quand même puissante. Où le secteur du droit des affaires, des droits de propriété intellectuelle reste un problème. Et justement, évidemment, la stratégie du gouvernement indien, la stratégie de la diplomatie indienne à l'étranger, qui s'intéresse de plus en plus aux questions économiques, c'est d'essayer de transformer cette image, mais encore une fois dans un contexte qui est celui d'une compétition mondiale. Il y a le marché indien, mais si telle grande entreprise juge que c'est plus intéressant de fabriquer en Malaisie, ils vont en Malaisie, quitte à exporter ensuite.
Géopolitique.
Marie-France Chatin. Alors, on évoquait cette ouverture diplomatique du gouvernement de Narendra Modi. Les ministres ont été invités à se rendre à l'étranger jusque dans des pays de moindre importance. Je pense à la Hongrie, le Panama, le Nicaragua, l'Estonie, la Lettonie, Malte, etc. Narendra Modi, à lui seul, a déjà visité près de 50 pays depuis qu'il dirige l'Inde, dont certains plusieurs fois, comme les États-Unis, la Chine, la Russie et la France. Est-ce à dire que finalement c'est encore trop tôt pour les retombées de ces visites diplomatiques sur les questions d'investissement en Inde et de restauration et transformation de l'image indienne, Olivier Dallage?
Oui et non. Enfin, il y a des retombées immédiates et puis il y a des choses qui prennent plus longtemps. Je pense que l'activisme diplomatique de Narendra Modi a surpris et en bien pratiquement tout le monde. Personne ne l'attendait sur le terrain de la politique étrangère et on s'attendait plutôt à voir un idéologue puisqu'il incarne l'aile la plus extrémiste du BJP. Et c'est pas du tout ce qu'on a vu. On a vu quelqu'un qui, au contraire, parlait à tout le monde, à ses voisins, on y reviendra, comme le Pakistan, qui parle aux Arabes alors qu'il avait une réputation d'être hostile aux musulmans, alors qu'il ne s'est pas encore rendu en Israël, et finalement qui a mis en œuvre une diplomatie certes très dynamique et fondée sur le charisme du personnage, qui est considérable, mais très en phase avec ce que faisaient ses prédécesseurs. Il y a une grande continuité et c'est finalement ce qui surprend. Mais il arrive à la limite de ce qu'un homme tout seul peut faire quand il n'y a pas tout l'appareil derrière. Il faut savoir que pour un grand pays comme l'Inde, il y a à peine plus d'un millier de diplomates professionnels. C'est le niveau de la Belgique ou des Pays-Bas, par exemple. Comment voulez-vous être présent dans toutes les organisations internationales, multilatérales, toutes les négociations, tous les pays pour avoir le suivi? Ça, c'est un problème auquel ils devront remédier. Et de la même façon, on parlait de l'installation des entreprises étrangères, il y a tout ce qui a été rappelé, mais il y a des problèmes d'infrastructure. Vous êtes une grande entreprise, vous avez besoin d'électricité, vous avez besoin d'eau, vous avez besoin d'être proche de routes qui fonctionnent. Et là, il y a une grande inégalité, on va dire, dans le territoire pour satisfaire ces besoins de n'importe quelle grande entreprise.
Et une très forte dépendance énergétique. Sur la question du nationalisme, Olivier Dallage évoquait à l'instant les aspects d'idéologue du Premier ministre indien. Est-ce que finalement ce nationalisme de Narendra Modi, Vaiju Naravan, n'est pas en train de devenir un terme positif?
Ben écoutez, on n'a pas encore tout à fait vu les retombées positives de ce nationalisme de Narendra Modi. En fait, le BJP a été terriblement coupable et Narendra Modi n'a rien fait pour contrôler les électrons libres de son propre parti, qui ont ouvertement prêché contre la minorité musulmane, qui constitue quand même 14% de la population. Quand vous décidez d'un trait de votre crayon que vous allez interdire l'abattage et la consommation du bœuf, vous prenez des mesures contre les musulmans, 180 millions en nombre à peu près, les trentaines de millions de chrétiens et énormément de dalits, c'est-à-dire des hindous qui sont issus des castes les plus bas et qui dépendent de la viande de bœuf pour rencontrer leurs besoins de protéines, qui sont les protéines les moins chères en Inde, parce que le poulet et l'agneau coûtent beaucoup plus cher. Ces gens-là ont continué à faire des commentaires genre les musulmans se multiplient beaucoup plus rapidement que la population hindoue, tandis que les courbes de la croissance de population montrent qu'il y a quand même un contrôle de population qui commence à se mettre en route chez les musulmans. Donc il y a une distorsion des faits, il y a un effort à convaincre la majorité hindouiste que l'Inde est pour les hindous. Il y a aussi un discours super politisé anti-musulman et anti-pakistanais en particulier qui rend tout attentat par le gouvernement Modi pour ouvrir un vrai dialogue avec le Pakistan extrêmement difficile. Donc, quelque part, le BJP minait son terrain lui-même. Et ils sont maintenant dans une espèce d'impasse, même de point de vue de la politique étrangère, parce qu'ils ont tellement caressé dans le sens de poil les éléments nationalistes au sein de l'Inde.
Alors Jean-Luc Racine, je vous demande de réagir. On ne peut pas trop approfondir la question de la relation avec le Pakistan. On y reviendra dans la deuxième partie de l'émission. Il nous reste 1 minute 30 pour terminer cette première partie. Un commentaire sur ce que vient de dire Vaiju Naravan.
Je crois que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le nationalisme indien a toujours existé. Il y a toujours eu cette idée qui avait été portée par Nehru et par ses successeurs, que l'Inde avait une longue histoire, une longue et belle histoire, que c'était un des foyers de la civilisation mondiale et que l'avenir devait être, certes difficile, mais à la mesure de cet héritage. Le problème, c'est que le nationalisme hindou, pour l'appeler comme on l'appelle en Inde ou à l'extérieur de l'Inde, c'est que il correspond à une certaine crispation identitaire. Vaiju Naravan l'a rappelé, hein, comme si l'Inde était simplement une terre hindoue. Mais évidemment, Narendra Modi essaie de jouer là-dessus. Quand on l'entend dire que l'Inde aurait pour mission de devenir le gourou du monde, il joue délibérément sur une ambiguïté, c'est-à-dire ça peut être le gourou du monde en étant un pôle de savoir, les grandes écoles, le rayonnement scientifique, etc. Mais ça peut être aussi, au sens propre du gourou, ce que l'Inde hindoue a apporté au monde. Et c'est cette ambiguïté qui définit, à mon sens, la part du nationalisme hindou dans la définition de la politique étrangère.
Géopolitique, nous retrouvons nos invités Jean-Luc Racine, Vaiju Naravan et Olivier Dallage dans quelques instants. À tout de suite.
Géopolitique, Marie-France Chatin.
Géopolitique, regard sur l'Inde. Nous retrouvons nos invités par téléphone depuis New Delhi, Vaiju Naravan, écrivain et journaliste, auteur de Transgression, paru dans la collection Romans du Seuil. Jean-Luc Racine, directeur de recherche au CNRS, et Olivier Dallage, journaliste à RFI, auteur de L'Inde, désir de puissance, qui vient de paraître chez Armand Collin. Cette année 2017 marque le 70e anniversaire de l'indépendance de l'Inde et de la partition du pays. Fin 2016, un climat de guerre froide s'installait à nouveau entre l'Inde et le Pakistan. Le ministre pakistanais de la Défense a même menacé l'Inde d'une guerre atomique. On est loin des premiers pas de Narendra Modi en 2014, Olivier Dallage, avec l'invitation du Premier ministre pakistanais à venir participer aux cérémonies d'investiture. On semblait espérer un changement dans la relation entre l'Inde et le Pakistan. Finalement, retour à la case départ, Olivier Dallage.
Oui, c'est même aller plus loin. Le jour de Noël, qui correspond à l'anniversaire du Premier ministre pakistanais Nawaz Sharif, il avait fait escale, soi-disant par hasard, à Lahore pour le rencontrer. Et puis, comment on pouvait s'y attendre? Les services secrets pakistanais ont essayé de faire dérailler le processus en organisant des attentats en Inde. C'est toujours le même schéma. Tout nouveau gouvernement indien essaye de tendre la main au Pakistan. Il rencontre un bon accueil des autorités civiles. Et puis, quelque chose vient faire dérailler le processus. Ça s'est produit plein de fois, y compris avec le prédécesseur, qui pourtant n'avait jamais été jusqu'à se rendre au Pakistan parce qu'il avait peur des critiques de son propre parti et aussi du parti de Narendra Modi. Il y a une chose nouvelle cependant, c'est que maintenant il y a les réseaux sociaux qui chauffent à blanc l'opinion publique, de même que les chaînes d'information continue qui font venir plein de généraux à la retraite qui expliquent qu'il faut taper le Pakistan. C'est effectivement ce qui a été fait, c'est pas non plus la première fois, mais ce qui est nouveau, c'est que ça a été annoncé publiquement. Donc on est effectivement rentré dans une zone relativement dangereuse, mais qu'on a déjà connue par le passé.
Alors, est-ce que, et on les évoque, les risques d'une escalade nucléaire, je me tourne vers vous, Vaiju Naravan, est-ce que cela est évoqué, est-ce que ça peut faire partie des choses possibles, et finalement, sur quoi bloque aujourd'hui la relation difficile entre l'Inde et le Pakistan, c'est toujours sur le Cachemire?
Oui, c'est toujours sur le Cachemire, certainement côté pakistanais, c'est toujours sur le Cachemire. En Inde, on a eu une année extrêmement difficile au Cachemire, où il y a eu quand même beaucoup de protestations, l'utilisation des cartouches spécialement conçues qui sont considérées comme étant non létales, parce que ça ne tue pas, mais ça aveuglait pas mal de jeunes. Il y a eu une vraie vague de colère chez les Cachemiris, qui a rendu les choses très difficiles. Mais à la fois, comme a souligné Olivier, il y a eu plusieurs attentats, et ces attentats étaient sérieux, parce que c'était contre les bases de l'armée ou les bases aériennes indiennes. Ça veut dire que la machine de la défense nationale indienne a été quelque part touchée et qui a été atteinte. Ces attaques étaient toujours de plus en plus téméraires et ça a rendu la chose très difficile. Mais Narendra Modi est aussi otage à la situation intérieure. Récemment, il y a eu 4 auteurs qui ont été envoyés au Festival littéraire de Karachi avec le service culturel du ministère de l'information qui a payé pour leur billet. Et là, vous avez eu une chaîne de télévision, NDTV, qui a critiqué ça en disant comment est-ce possible que le gouvernement indien paye pour que les auteurs indiens aillent faire partie d'un festival littéraire dans un pays ennemi. Il y a dans très peu de temps les élections dans, comme j'ai dit, plusieurs États qui sont absolument cruciales pour l'existence même de Narendra Modi, qui va aller vers les élections générales pour le Parlement central dans 2 ans. Donc, il est dans l'obligation d'utiliser tout atout qu'il a. Et une des atouts, c'est de brandir quelque part la carte nationaliste. Et en Inde, ce qui veut dire nationaliste veut aussi dire automatiquement anti-pakistanaise. C'est une dimension qu'on ne devrait jamais imaginer et on craint fort que si M. Modi arrive à perdre les élections, surtout dans l'état de Uttar Pradesh, dont les résultats sont attendus le 11 mars prochain, à ce moment, il n'hésitera pas peut-être a fabriqué une guerre à l'extérieur de l'Inde, aidé sans doute par les généraux pakistanais qui, eux aussi, ont besoin d'être soutenus un peu par leur population chez eux. Et quoi mieux que le fibre nationaliste et la réaction à une menace vue comme venant de l'étranger.
Une guerre à l'extérieur de l'Inde. Jean-Luc Racine a un commentaire sur ce que vient de dire Vaidju Naravanan. Et finalement, comment sortir de tout cela ?
Un conflit est toujours possible, mais en principe, si conflit il y a, ça devrait être comme ça a été le cas lors des derniers conflits, des conflits limités, dont l'objectif est finalement beaucoup plus politique que militaire. Mais derrière cela, il y a un jeu rhétorique qui joue sur que faire avec le nucléaire. Une guerre nucléaire est évidemment hors de question. Mais il y a d'un côté...
Elle n'est pas exclue par les services de renseignement américains dans leur ouvrage de prospective.
Oui. Je vois pas pourquoi les Indiens et les Pakistanais se lanceraient dans une guerre nucléaire tous azimuts. Ce serait totalement absurde. En revanche, chaque côté, pour marquer des points, joue avec la question nucléaire. Les Pakistanais, en jouant sur la possibilité de ce qu'on appelle le nucléaire tactique, c'est-à-dire des frappes extrêmement limitées, micronucléaires si j'ose dire, en cas d'une invasion indienne qui est extrêmement peu vraisemblable. Et on entend parfois le ministre indien de la Défense dire « peut-être faudrait-il qu'on repense notre doctrine nucléaire qui n'envisage jamais de frapper en premier ». Tout ça, à mon sens, ça fait beaucoup plus partie d'un jeu rhétorique d'un ping-pong diplomatico-stratégique qui cherche à maintenir un niveau de tension qui sert des intérêts dans les deux pays. Mais au-delà de ça, et plus fondamentalement, je crois, il y a d'un côté les demandes indiennes pour relancer un dialogue qui avait été conduit de façon assez prometteuse sur l'avenir du Cachemire de 2004 à 2007. Mais les Indiens posent une précondition, à savoir que les leaders des mouvements djihadistes pakistanais qui ont opéré en Inde, que ce soit à Bombay en 2008 ou plus récemment, soient véritablement réduits à néant. Et les Pakistanais refusent tout préalable à ce que serait une reprise du dialogue. Et après, il y a les autres enjeux. Il y a que va-t-il se passer en Afghanistan ? Et ça, c'est un jeu qui dépasse de loin Afghanistan, Pakistan, Inde. On a une espèce de nouveau grand jeu qui se déploie où on voit les Russes, les Chinois, les Américains, les Iraniens, les Indiens, les Afghans eux-mêmes, les Pakistanais. On voit que la Chine a bloqué à 3 reprises dans le comité des sanctions antiterroristes des Nations Unis une requête indienne pour faire classer le leader du Jaïch-e-Mohammed derrière les derniers attentats comme terroriste, et à chaque fois les Chinois bloquent, non pas pour soutenir ce personnage, mais évidemment pour garder les faveurs d'Islamabad. Et en même temps, le Pakistan est dans une situation de plus en plus complexe. On peut s'interroger d'ailleurs s'il n'y a pas une réflexion en cours pour savoir que faire avec ces mouvements djihadistes qui ne se sont pas tournés, contrairement aux talibans pakistanais, contre le pouvoir d'État. Il y a la question décisive de ce qu'est la connectivité entre l'Asie du Sud, l'Asie centrale, le Moyen-Orient, qui demande à ce que l'Afghanistan soit pacifié pour que les relations terrestres puissent se faire, mais les relations terrestres sont bloquées par les Pakistanais qui ne veulent pas laisser passer les camions ou les trains indiens. Donc il y a beaucoup de choses qui sont en jeu avec la Chine qui regarde tout cela de très près.
Justement, la Chine qui voit bénéficier à travers le Pakistan d'un corridor industriel, tout cela évidemment ne fait qu'accroître les tensions, Olivier Dallage, entre l'Inde et la Chine.
Oui, d'abord, revenons à la base. Les Indiens ne se sont toujours pas remis de la défaite de 1962, avec le sentiment d'avoir été pris en traître par un proche, un allié, même avec lequel on était rival au sein du mouvement des non-alignés. Depuis, il y a eu évidemment beaucoup de réflexions, etc. Donc la Chine est perçue comme un adversaire, un potentiel ennemi, et la doctrine militaire indienne prévoit de se mettre en situation de combattre sur 2 fronts, c'est-à-dire Chine et Pakistan. Concrètement, ils sont encore très en retard par rapport à la Chine, même s'ils ont fait de gros progrès sur le plan militaire. Et il y a autre chose, c'est que la Chine est certainement un rival et peut-être un ennemi potentiel, mais c'est également un partenaire politique et économique sur la scène mondiale. Et donc, ils sont dans cette dialectique très complexe où ils sont en rivalité, ils doivent coopérer. Et aussi bien la Chine que l'Inde, finalement, savent très bien que un conflit qui dépasserait un minimum supportable serait la fin de leur puissance au moment où les deux veulent être les grandes puissances de ce 21e siècle.
Vaiju Naravan, un commentaire sur ce qui vient d'être dit. On peut peut-être d'ailleurs aller un petit peu plus loin. L'élection de Donald Trump aux États-Unis, est-ce que tout cela peut changer quelque chose dans la relation entre l'Inde et les États-Unis et la position de l'Inde régionalement?
Écoutez, l'élection de Trump a été très bien vue par certains segments de la population indienne, exactement comme l'élection de George Bush a été vue, parce qu'on pense ici que Trump serait anti-Chine par nature et donc pro-indien. Et aussi parce qu'il y a beaucoup d'organisations hindouistes qui pensent que comme Trump est anti-musulman, il sera automatiquement pro-hindou. D'ailleurs, Trump a donné quelques gages dans ce sens-là à l'association hindoue des États-Unis. Il avait dit que l'Inde était un pays éminemment respectable et qu'il aimait beaucoup les Indiens. Ça avait réjoui les Indiens. Mais maintenant, depuis quelques jours, on voit qu'il y a un petit changement dans la politique des États-Unis et même la politique du Trump, qui avait parlé contre le One China Policy au début en prenant l'appel de Taïwan. Et là, maintenant, il commence à reculer un petit peu. Je crois que Trump arrivera très rapidement vers une espèce de continuation de la politique traditionnelle des États-Unis. Et là, il y a un jeu très complexe parce que les États-Unis ont souvent essayé de flirter avec la Chine tout en gardant l'Inde comme second violon. Tandis que c'est vrai que les intérêts indo-américains sont plus proches, disons, naturellement parlant, avec leur projet politique, avec leur projet démocratique, etc., que les intérêts USA-Chine, mais c'est pas donné que les USA vont tourner vers l'Inde. L'autre chose, c'est que les Indiens voient véritablement en Chine son vrai ennemi. Et si l'Inde a peur de quelque chose, c'est l'axe sino-pakistanais. Parce qu'ils savent que derrière le Pakistan, et c'est pour ça que la possibilité d'une guerre nucléaire sont un peu réduits, parce que les Chinois sont très sages sur la question nucléaire, et que si l'Inde allait contre le Pakistan, l'Inde n'avait pas la possibilité d'utiliser l'option nucléaire parce qu'il y avait la Chine derrière. Les Indiens sont absolument furieux contre les Chinois, mais à la fois très impuissants. Parce que d'un côté, il y a la relation commerciale, mais de l'autre côté, il y a aussi la politique chinoise qui est quand même très agressive dans la mer de Chine et ailleurs dans l'Asie du Sud. Les Chinois sont en train de développer les ports, que ce soit à Karachi, que ce soit dans le Sri Lanka au nord. Donc on parle de cette politique de contenir l'Inde pour mater l'Inde quelque part, pour que la Chine puisse émerger comme le seul pouvoir en Asie. Et l'Inde a quand même quelques velléités dans ce même sens. Donc les Indiens sont extrêmement suspicieux envers la Chine.
Alors, ce qu'évoque là à l'instant Vaiju Naravan, Jean-Luc Racine, cette grande crainte de l'axe sino-pakistanais est sans doute en train d'inciter le Premier ministre indien à une diplomatie plus offensive. J'en veux pour preuve l'accord signé avec le Japon de coopération nucléaire civile, le même accord que celui qui a été signé il y a plus d'une dizaine d'années avec les États-Unis, et puis le rapprochement stratégique indo-australien, tout cela contribue donc à cette diplomatie plus offensive de l'Inde aujourd'hui?
Oui, je ne sais pas si on peut dire que ce soit une diplomatie offensive au-delà de ce qu'est une diplomatie active. Mais en fait, on est là face à un vieux dilemme qui existait avant Narendra Modi et qui existe toujours. Est-ce qu'il faut répondre à ce qu'avait été le projet de Shinzo Abe, le premier ministre japonais, lors de son premier mandat, c'est-à-dire de créer une espèce, je cite, d'arc des démocraties, qui aurait regroupé Japon, Australie, Taïwan, États-Unis et éventuellement l'Inde. Pour le moment, l'Inde multiplie ses partenariats, mais la vraie question, c'est de savoir si on peut envisager une inflexion de la politique indienne vis-à-vis des États-Unis. La ligne traditionnelle indienne, et jusqu'à présent la ligne de Modi n'a pas changé là-dessus, c'est partenariat oui, alliance non, et surtout pas pour être une espèce d'outil américain contre la Chine. Ça a été dit, la Chine est un partenaire économique et commercial de l'Inde plus important que les États-Unis. Et d'autre part, il y a quand même une asymétrie fondamentale entre l'Inde et la Chine. Les deux pays ne jouent pas dans la même catégorie. Sur le plan à la fois économique, la puissance chinoise, c'est entre 4 et 5 fois la puissance indienne, d'un côté. Et de l'autre côté, on voit bien que la diplomatie chinoise se globalise, mais se globalise aussi parce qu'elle a, si j'ose dire, les poches pleines. C'est le grand projet de route de la soie continentale. Et là, c'est évidemment les liens resserrés entre Moscou et Pékin qui sont en cause. La route de la soie maritime, pour le moment, l'Inde a voulu s'exclure de ce pharaonique projet chinois, mais le débat reste ouvert. Le vrai test sera de savoir si, avec l'Amérique de Trump, Narendra Modi sera prêt à faire évoluer la politique indienne. Mais là, on est vraiment dans une question qui touche à qu'est-ce qu'est l'ordre mondial en train de se déployer dans le désordre d'aujourd'hui.
Finalement, dernière question pour cette émission, Olivier Dallage. Quelle priorité pour Narendra Modi d'ici à 2019, fin de son mandat ?
Tenir le cap, ne pas décevoir, notamment en ce qui concerne la dimension économique qu'on abordait au début de l'émission. Montrer que l'Inde est reconnue comme une des plus grandes puissances, sinon actuelles, du moins à venir. Donc avec la confirmation par tout le monde que oui, l'Inde a vocation à siéger au Conseil de sécurité, quand bien même l'Inde conteste les institutions nées de l'après-guerre.
Alors ça, d'ici à 2019, ça a peu de chances d'aboutir tout de même.
Évidemment, mais l'important est d'envoyer le signal que ça va aboutir.
Alors, Vaidju Naravan, juste en conclusion pour les priorités.
En conclusion, oui, je trouve que l'Inde est un cap très délicat. Et en fait, je crois que les élections dans un mois vont définir quand même et vont infléchir la politique aussi bien intérieure que l'extérieure de Narendra Modi. Parce que son objectif, effectivement, est de reconquérir le pouvoir en 2019. Et il fera tout pour garder lui-même à la tête du prochain gouvernement central en Inde.
Jean-Luc Racine, finalement, l'élection de Donald Trump vient troubler les objectifs et les priorités de Narendra Modi
Jusqu'à un certain point, oui. C'est-à-dire les Indiens sont comme tout le monde. Ils se demandent ce qui va se passer. Parce que au-delà de ce qui pourrait sembler être des affinités vis-à-vis de la Chine, vis-à-vis du terrorisme, de l'islamisme, etc., il y a quand même des inquiétudes côté indien. Il y a des inquiétudes qui sont liées essentiellement à la volonté de Trump de déployer une politique protectionniste. Ça veut dire quoi très concrètement ? Ça veut dire que les milliers d'ingénieurs de haut niveau indiens qui bénéficiaient de visas spéciaux pour les États-Unis, qu'est-ce qui va se passer là-dessus ? Ça veut dire aussi, on parlait tout à l'heure des questions de défense, comment l'Inde peut avancer vis-à-vis des États-Unis sa politique de « Make in India » si la politique de Donald Trump, c'est d'essayer de contraindre les multinationales américaines à produire moins à l'étranger. Alors que la stratégie indienne, c'est justement de dire « venez produire chez nous ». Donc les points d'interrogation, à New Delhi comme ailleurs, sont quand même considérables s'agissant de la nouvelle administration américaine.
Merci. C'est la fin de Géopolitique. Merci à nos invités, Vaidju Naravan, qui était par téléphone depuis New Delhi, écrivain et journaliste, auteur de Transgression, paru dans la collection Romans du Seuil, Jean-Luc Racine, directeur de recherche au CNRS, et Olivier Dallage, journaliste à RFI et auteur de L'Inde, désir de puissance, qui vient de paraître chez Armand Collin. Émission signée Marie-France Chatin, Véronique Durand et Victor Hull. À samedi prochain.